L'année 34 de notre ère a été une année charnière dans l'histoire de l'humanité. Il s'est passé plusieurs choses importantes dans cette année. Quand vous ouvrez le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que tout d'un coup, entre le chapitre 7 et le chapitre 8, il y a quelque chose d'important qui se passe. L'évangile qui avait été annoncé principalement dans les milieux juifs va maintenant sortir de ses frontières, s'étendre chez les Samaritains et s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre par des nouveaux missionnaires que le Seigneur va susciter, des missionnaires inattendus. Pour la première fois, à partir de cette année-là, l'évangile s'étend dans tout le monde. Et puis, cette année 34, c'est aussi la fin d'une prophétie biblique, d'une prophétie que l'on trouve dans Daniel au chapitre 9, les 70 semaines. Cette prophétie s'achève en l'an 34, montrant par là que le temps de grâce pour le peuple juif s'achève aussi à ce moment-là, parce que c'est le moment où maintenant l'évangile va rejoindre tous les autres, le monde entier. Et puis l'année 34, c'est aussi une année particulière parce que cette année-là, le premier martyr chrétien va mourir. Pour la première fois, un homme va donner sa vie pour sa foi, Étienne. Il nous est raconté dans le livre des Actes, au chapitre 7, comment cet homme a rendu son témoignage par rapport à Jésus. Il a rendu furieux à cause de ce témoignage les Juifs qui étaient là, et ils ont décidé de le lapider. C'est ce qu'ils ont fait. Mais cet homme est mort dans la paix. Il a demandé à Dieu de pardonner même la faute que ces gens faisaient en le mettant à mort. À la fin du chapitre 7, il nous est dit « Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. » Ce petit verset est important parce qu'il va rebondir au chapitre 9. Mais au chapitre 8, au début, il nous est dit au verset 2 « Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Étienne est mort. Et maintenant, c'est devenu dangereux d'être chrétien parce qu'on risque sa vie, vous comprenez? Et à cause de cela, un certain nombre de personnes vont se répandre dans d'autres régions pour éviter la persécution et emporter avec eux la bonne nouvelle à répandre autour d'eux. De cette manière, l'évangile va se répandre partout, loin. Et le livre des Actes ne va pas nous raconter toutes les histoires des Actes des apôtres et de tous les autres, parce que ces histoires rempliraient des volumes énormes pour nous raconter tout ce qui a été fait pour que l'évangile rejoigne les coins les plus retirés de la terre. Cependant, au chapitre 9, il nous est raconté l'histoire de Saul et de sa conversion. Cet homme était parti pour persécuter les croyants, et puisqu'ils se sont eux-mêmes éloignés de Jérusalem et de la Judée, alors lui aussi va aller les chercher là où ils sont partis. Et vous connaissez cette histoire, nous l'avons lue tout à l'heure. Au milieu de la journée, Dieu va jeter Saul par terre et lui dire « Alors, arrête de me persécuter. Mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes au travers de ses fidèles. » Dans Actes au chapitre 26, où Saul, devenu Paul, raconte cette histoire, il dit ceci au verset 14. « Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Lorsque Saul a été interpellé par Dieu sur le chemin de Damas, ce n'était pas la première fois qu'il avait parlé à Saul. Et j'aimerais vous inviter à refaire avec moi ce voyage, voyage imaginaire de Saul qui va de Jérusalem jusque Damas. Voyage imaginaire parce que le livre des Actes ne nous donne pas tous les détails de ce voyage. Mais je pense que ce voyage imaginaire est très proche de la réalité ou de ce que la réalité a pu être. Saul avait reçu de la part de ses amis pharisiens des lettres qui lui permettaient d'exercer ce ministère de persécution. Il était d'ailleurs reconnu comme quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Il était jeune, mais son dynamisme leur plaisait beaucoup parce qu'il était dynamique pour persécuter cette secte des chrétiens, de ces hérétiques païens, complètement perdus, à leur sens. D'ailleurs, l'élève de Gamaliel, qui avait scrupuleusement étudié tout ce qu'on lui avait enseigné, était devenu encore plus fanatique que son maître. Et ce fanatisme avait beaucoup plu à ceux qui l'envoyaient de ci et de là pour accomplir ce qu'eux n'avaient plus le courage de faire. Ainsi, Saul commence son voyage. Et comme Jésus le lui a dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Autrement dit, tu ne peux plus, Saul, résister aux piqûres que je te fais depuis longtemps. Alors j'aimerais vous inviter à refaire ce voyage avec moi. En fait, la première piqûre de l'aiguillon de Jésus, il l'a eue au moment où il a assisté à la lapidation d'Étienne. Étienne a fait sa prédication, il a annoncé Jésus et dans l'esprit de Saul, cet homme était un hérétique, pur et simple, un homme qu'il faut faire taire. Et le texte nous dit qu'il avait approuvé la lapidation d'Étienne, il était bien d'accord qu'on fasse taire cet homme-là. Cependant, il a vu quelque chose qui est resté dans son esprit, une idée qu'il a persécutée. Parce que cet homme qui prêchait Jésus est mort dans la paix. Il avait cet homme une paix que Saul n'avait pas lui-même. Et puis, il a dit, pardonne-leur. Mais comment donc cet homme qu'on était en train de faire taire par la mort pouvait encore demander à Dieu de pardonner ceux qui le mettaient à mort? Parce que Saul lui-même n'était même pas prêt à pardonner ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il n'a pas jeté une seule pierre contre Étienne, il a simplement gardé les vêtements et à distance il a vu ce qui se passait. Mais cette lapidation d'Étienne est restée collée dans son souvenir, comme une histoire qui le persécutait parce que cet homme est mort dans une paix qu'il n'avait pas. Et il a demandé pour ses persécuteurs un pardon que lui-même, Saul, était incapable d'offrir à qui que ce soit. Cet homme, Étienne, avait vraiment quelque chose que lui-même n'avait pas. Mais d'où le tenait-il puisqu'il était un imposteur? Comment se fait-il que cet homme avait cette paix, cette générosité, alors qu'il était un menteur? Cette difficulté est restée dans l'esprit de Saul et est souvent revenue alors qu'il voyait les dernières pierres jetées sur cet homme qui mourait en paix. Et puis Saul est parti de Jérusalem. Il est parti pour aller à Damas. Oh, il y a un chemin bien court pour aller là, mais il traverse la Samarie, vous comprenez? Paul ne va pas traverser la Samarie, pas question de passer chez les Samaritains. Il fera donc un détour. Il va contourner Jérusalem par le sud, contourner le mont des Oliviers et prendre ce chemin qui va descendre à Jéricho. Ce chemin qui monte d'abord un tout petit peu et puis qui descend, et qui descend, et qui descend quasiment 400 mètres en dessous du niveau de la mer pour aller au niveau de la mer Morte. Et au nord de la mer Morte se trouve Jéricho. Ce chemin, il est unique. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a un. C'est le chemin que tout le monde emprunte pour aller de Jérusalem à Jéricho. C'est un chemin qui est bien connu. Parce que ce chemin est désert et il est rempli de brigands. Il faut donc y aller en bonne compagnie et Saul est descendu avec des soldats, bien entendu, il ne risquait rien. Mais en descendant, il s'est sûrement arrêté à la seule et unique auberge qui se trouvait au milieu du chemin. L'auberge où tout le monde s'arrête pour raconter ce qui lui est arrivé en chemin et prendre le courage de continuer à descendre jusqu'à Jéricho. Il s'est arrêté dans cette auberge et dans cette auberge, tout le monde est encore en train de raconter une histoire incroyable que Jésus, ce rabbin, avait racontée. L'histoire inconcevable d'un bon samaritain qui vient secourir un juif. On la raconte encore cette histoire dans l'auberge, parce que dans son histoire, Jésus a parlé de cette auberge. Mais quand Saul entend encore cette histoire racontée pour la xième fois, Il explose intérieurement parce qu'un bon samaritain, pour lui, ça n'existe pas. C'est un oxymore, un bon samaritain. Comment est-ce possible? Et naturellement, il s'est dit, mais si par malheur, ce qui est arrivé dans cette histoire m'était arrivé, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Il s'imagine que lui, il ait besoin d'un samaritain pour venir le délivrer de la mort. Mais ça, c'est inconcevable. Comment donc cet homme, Jésus, arrivait-il à raconter des histoires pareilles? Des histoires fortes, des histoires qu'il remuait, des histoires inimaginables, des histoires dans lesquelles il n'osait même pas se mettre, tant il avait à l'intérieur une rage extraordinaire contre ce que ce rabbin Jésus tirait comme leçon de ces histoires. Alors il est parti de cette auberge, il a continué son chemin. Mais d'où venaient donc ces histoires-là? Parce qu'elles le remuaient, ces histoires, qu'il le veuille ou non. Alors d'où lui venaient ces histoires, d'où lui venaient ces paraboles incroyables, inconcevables, irrecevables? Alors il est arrivé finalement, après sa descente, jusqu'à Jéricho. Et Jéricho, Saul a dû s'arrêter à l'entrée de la ville parce qu'il va falloir payer une taxe pour rentrer dans la ville. Il y avait là le petit bureau du collecteur de taxes. Et en regardant dans les yeux de ce collecteur de taxes, il s'est tout d'un coup souvenu d'un homme qu'il avait rencontré là souvent à ce bureau-là, qui s'appelait Zachée, un petit bonhomme haut comme trois pommes, qui lui avait soutiré pas mal d'argent. Mais il savait très bien ce qui lui est arrivé. Tout d'un coup, il s'est souvenu que cet homme-là avait accepté Jésus. Et croyez-le ou non, ce petit bonhomme, ce voleur, ce renégat qui travaillait pour l'ennemi, pour les Romains, il a rendu 4 fois plus que ce qu'il avait volé. Mais comment a-t-il pu faire une chose pareille? Comment donc ce Jésus qu'il avait accepté a-t-il pu lui mettre dans le cœur le désir de rendre 4 fois ce qu'il avait volé? Il voyait cette idée inimaginable alors qu'il regardait ce collecteur de taxes, qui n'était plus Zachée. Zachée était ailleurs. Mais on parlait encore de cet argent que Zachée a donné à tous les pauvres qu'il avait déjà volé. Alors il est rentré dans la ville. Et dans la ville, il a vu des mendiants qui demandaient de l'argent. Et il a entendu encore cette histoire de Bartimée. On lui a dit, tiens, regarde là-bas dans la rue, c'est Bartimée qui passe. Bartimée, c'est qui Bartimée? Mais voyons, Bartimée, c'est celui que Jésus a guéri, il était aveugle. Jésus l'a guéri, il voit maintenant. Bartimée, Zachée, il en a marre de Jéricho. Il veut sortir de là, parce qu'encore une fois, comment est-ce possible que cet imposteur, selon lui, Jésus, puisse faire des miracles si extraordinaires, s'il est opposé à Dieu, si c'est un menteur? Dieu aurait dû le foudroyer 100 fois déjà. Et pourtant non, il a fait des miracles extraordinaires tout le long. Et malheureusement, il y a encore les témoins de ces miracles, ils sont là et ils parlent, figurez-vous. Est-ce que Jésus est un faux? Mais oui, il est un faux, il ne peut pas être un vrai, pourtant Dieu le soutient, comment est-ce possible? C'est difficile pour lui de résoudre cette difficulté, et là, à Jéricho. Jéricho, Saul reçoit sa 3e piqûre des aiguillons de Jésus. Alors il sort de cette ville et il va monter vers le nord. Il va traverser le Jourdain, monter le Jourdain du côté est, dans ce grand boulevard, si on peut dire, cette grande voie qui s'appelle le Grand Tronc, qui est cette voie qui va depuis le sud, depuis l'Égypte, et qui monte jusqu'à Damas. Le Grand Tronc, c'est une voie de communication où tout le monde passe. Et il va avancer sur cette voie de communication qui longe le Jourdain, jusqu'à un endroit où il y a un grand espace. Et tout d'un coup va lui venir ce souvenir, cet espace-là. C'est là que baptisait cet hérétique de Jean-Baptiste. C'est là qu'il a baptisé des gens. Il était dans le désert, mais à cause de cette grande voie de communication, tout le monde passait là et pouvait le voir, pouvait l'entendre. Encore un prédicateur hérétique, et pourtant, Et pourtant, le peuple le reconnaissait comme un vrai prophète de Dieu. Mais les rabbins, les chefs du peuple l'ont rejeté, donc c'était un faux. Ça ne pouvait pas être un vrai prédicateur. D'ailleurs, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comment cet homme Jésus pouvait-il faire une chose pareille? Et pourtant, quand on parle d'agneau, on parle de mort. Et il est mort, Jésus. Mais il n'est pas mort en sacrifice, pensait Saul, il est mort parce qu'on l'a fait taire. Et puis Jean-Baptiste, ah oui, c'est vrai. Il est mort martyr lui aussi, de la main de l'ennemi qui l'a fait mourir. Mais finalement, était-il un blasphémateur ou pas, en passant le long du chemin, en voyant le Jourdain où il avait baptisé un nombre incroyable de gens? Il se disait que ces gens qu'il avait baptisés étaient devenus des bonnes personnes. Ces gens étaient devenus des gens de bien. Alors est-ce possible qu'un blasphémateur puisse faire quelque chose de bien? Il avait du mal à réconcilier cette idée. Et en avançant le long du chemin, Saul a pris la quatrième piqûre de l'aiguillon de Jésus. En avançant sur la route, il est arrivé à la ville de Tibériade, sur les bords du lac de Galilée. Et là, il est rentré dans cette ville où il y a une imposante garnison. C'est une base militaire pour les Romains. Il y a aussi une population qui est très attachée à ce que les Romains font. Et Paul n'est pas très à l'aise, parce que lui est terriblement opposé à ce que les Romains font. Alors il va se promener sur le bord du lac de Galilée. Et là, on va lui raconter. Il dit, tu sais, c'est ici que Jésus a fait ses pêches miraculeuses. Jésus, encore Jésus. Et on lui dit, tu sais, il ne l'a pas fait qu'une seule fois, il l'a fait deux fois. Et la deuxième fois, c'était après sa crucifixion. Taisez-vous, je ne veux plus en entendre parler de ce Jésus. Et on lui raconte que ce Jésus a fait cette multiplication des poissons, c'est comme s'il les avait tirés dans le filet. Mais il avait été mis sur la croix et il était ressuscité. Nous, on l'a vu, disent les gens. Et là, il a du mal à comprendre. On l'a fait mourir, mais tout le monde sait bien. Tout le monde sait bien, d'ailleurs, les chefs religieux l'ont dit, que ses disciples sont venus et qu'ils ont volé son corps. Il n'est pas ressuscité. Et les gens lui disent, mais nous, on l'a vu. On était là, on a vu le miracle. Et tout d'un coup, dans sa tête, des questions viennent. Comment se fait-il alors que les gardes de la tombe n'ont pas été mis à mort? Parce que si tu dors pendant le service, c'est la peine de mort. Pourquoi est-ce que ces soldats n'ont pas eu la peine de mort et qu'on les a simplement envoyés ailleurs, dans une autre province? C'est bizarre. À Jérusalem aussi, les gens disaient qu'ils l'avaient vu. Et puis, ce Jésus sur ce lac avait aussi calmé une tempête. Mais qui peut calmer une tempête? Dieu seul peut faire ça. Pourquoi est-ce que Jésus a pu le faire? Comment Dieu a-t-il permis à Jésus de faire une chose pareille? Et puis, il a chassé des démons. Ils le disent encore, mais Dieu seul peut chasser des démons. Comment Dieu a-t-il laissé Jésus faire une chose pareille? Toutes ces questions ravageaient l'esprit de Saul. Et là, à Tibériade, il a pris une cinquième piqûre des aiguillons de Jésus. Il a continué à contourner le lac de Galilée par l'ouest et il est arrivé à Capernaum. À la Capernaum, c'est une ville où il faut qu'il parle, parce que les gens disent que c'est la ville de Jésus. Alors il veut s'y arrêter, il a quelque chose à dire dans cette ville-là. Imaginez peut-être que c'était soit le milieu de la semaine pour la réunion à la synagogue, soit peut-être même le sabbat. Et il était un rabbin visiteur de Jérusalem, on lui a donné la parole. Il a parlé dans cette synagogue contre Jésus. Il a expliqué tout ce qu'il savait pour prouver que Jésus était un menteur, un imposteur. Seulement au premier banc, il y avait le chef de la synagogue, il s'appelle Jaïrus. Et curieusement, Saul prêchait avec toute sa force contre Jésus, mais il y avait dans cette synagogue un silence incroyable. Personne ne bougeait, personne ne disait rien. On avait l'impression que l'auditoire savait des choses qu'il ne savait pas. Et puis, par la porte, Au loin, il a vu un centurion romain qui était là dehors parce que lui ne pouvait pas rentrer. Il essayait d'écouter. Mais dehors, c'était aussi le silence. Quand il a parlé un bon moment, il s'est demandé pourquoi donc ces gens sont-ils si silencieux? D'habitude, il y avait des amens d'approbation, mais cette fois-ci, rien, pas un bruit. Est-ce que ces gens avaient des réponses que lui n'avait pas? Quand ils sont sortis de la synagogue, escortés par Jaïrus, Jaïrus lui a dit, voici, je te présente ma fille. Elle a environ 18 ans. C'est elle que Jésus a ressuscitée. Et vous imaginez le regard foudroyant de Saul à Jaïrus, qui a détourné les regards, qui dit, je te présente celui qui a construit notre synagogue, le centurion, et à côté de lui, son serviteur, qui a été guéri par Jésus. Alors Saul sentait quelque chose de bizarre, parce que tout ce qu'il disait contre Jésus sonnait faux à ces gens qui étaient témoins de l'amour de Jésus. Et là, à Capernaum, Saul a pris la sixième piqûre de l'aiguillon de Jésus. Il va continuer à contourner le bord du lac pour reprendre la grande route. Et il va arriver à cet endroit où il y a une grande colline verdoyante qui va directement jusque dans le lac. Et on lui a dit, tu sais, c'est là que Jésus faisait sa prédication. Et Saul savait très bien que Jésus était capable de rassembler des foules de milliers de personnes alors que aucun enseignant de Jérusalem n'était capable d'avoir une foule pareille. Aucun d'entre eux. Mais lui, Jésus, il rassemblait des milliers de gens. Ils étaient là pendant des jours entiers à l'écouter. Personne n'écoutait plus les gens de Jérusalem, les rabbins, les instructeurs, ni même lui-même. Et il se souvenait de ces paroles qui couraient encore de bouche en bouche. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, disait Jésus, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Mais ceux qui ont le cœur pur, c'est les pharisiens, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, il avait du mal parce qu'il savait ce qu'il était persécuteur de ces gens-là. Et Jésus avait dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Alors, est-ce que par hasard, c'était un vrai prédicateur? J'admets, Saul disait dans son cœur, qu'il y a du bien qui est quand même sorti de ce qu'il a fait. Mais c'est impossible que Dieu ait permis qu'il fasse ces choses. Non, c'est pas possible, c'était pas un vrai, c'était un faux. Mais là, sur les bords du lac de Galilée, Saul a reçu la septième piqûre des aiguillons de Jésus. Un peu plus loin, il est arrivé à Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain. Mais il n'était pas là quand Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Saul n'était pas là. Mais tout le long du chemin, en fait, cette question est revenue à son esprit. Qui dis-tu que je suis? Un peu avant Damas, il a vu cette lumière, il a entendu cette voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, il te serait dur de résister à ces piqûres que je te fais depuis si longtemps. Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je crois que le chemin de Saul de Jérusalem à Damas ressemble à beaucoup de nos chemins à nous. Souvent, le Seigneur, le long de notre chemin, nous a piqué d'une façon ou d'une autre, par un témoignage de sa grâce. Piqué notre dureté, piqué notre orgueil, piqué notre suffisance, piqué notre manque de foi, piqué nos prétentions. Et dans ce sens, je crois que le chemin de Saul ressemble beaucoup à notre chemin dans notre vie. Plusieurs fois, nous avons été piqués. Et finalement, Saul de Tarse, devenu Paul, reconnaîtra une chose. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 15, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Oh, Paul avait du mal avec son passé, parce qu'il avait résisté pendant longtemps à ces piqûres des aiguillons de Jésus. Il a résisté longtemps, jusqu'à ce que finalement, il accepte que Jésus soit son sauveur, celui qu'il avait persécuté. Et je me pose la question, y en a-t-il parmi nous qui sont sur ce chemin et qui sont encore en train de résister aux piqûres que le Seigneur leur fait le long du chemin, pour leur rappeler cet appel, pour leur rappeler cette question, « Qui dis-tu que je suis ?» Y en a-t-il peut-être encore parmi nous qui n'ont pas cessé cette résistance aux aiguillons de Jésus et qui n'ont pas accepté qu'il soit leur maître ? Y en a-t-il encore qui, sans le savoir, sont en train de le persécuter d'une manière ou d'une autre ? Et pour ceux d'entre nous qui ont accepté que Jésus soit notre Seigneur, il y a encore une chose qu'il nous propose. Dans le livre des Actes, au chapitre 26, où l'apôtre Paul raconte cette expérience, il rappelle ce qui lui a été dit. Au verset 17, il est écrit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 17. Jésus lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Pour ceux qui n'ont pas résisté aux piqûres de l'aiguillon que le Seigneur utilise tout le long de notre chemin, il y a en réalité un appel, et si nous n'avons pas résisté, c'est parce qu'il veut nous envoyer. Comme Saul, le Seigneur voudrait nous envoyer pour que nous puissions ouvrir les yeux de ceux qui sont autour de nous, que nous puissions les sortir des ténèbres et les amener à la lumière, les amener du domaine de l'ennemi et les amener au pied de la croix, pour qu'eux puissent aussi bénéficier de l'héritage des sanctifiés. Alors si dans notre chemin, nous reconnaissons que le Seigneur est en train de nous piquer depuis longtemps, peut-être qu'il est temps, comme Saul de Tarse, nous acceptions qu'il soit notre Seigneur, notre Sauveur et celui qui nous envoie. Alors, si aujourd'hui vous sentez sa piqûre, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen.